Afrique, les infos à Washington.
12h à Washington, 14h temps universel. Eric Madelakis avec vous pour développer l'actualité en République centrafricaine. Nouveaux affrontements entre ex-Seleka et Antibalaka ce week-end à Bambari dans le centre du pays. Le tout dernier bilan de ces accrochages intercommunautaires qui ont commencé jeudi dernier. Au moins 15 morts et 20 blessés selon l'AFP, citant la gendarmerie locale. Beaucoup d'habitants de la localité ont fui en brousse pour échapper aux hostilités. Et en déplacement au Nigeria, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a commémoré l'attaque de Boko Haram contre les Nations Unies en 2011. Camille Gros-Didier pour les détails.
Ban Ki-moon a rendu hommage lundi aux 23 personnes qui avaient perdu la vie il y a 4 ans lors d'un attentat meurtrier à la voiture piégée contre le bâtiment des Nations Unies qui abritait 400 personnes. Les djihadistes de Boko Haram avaient revendiqué l'attaque. Ce matin, nous rappelons à notre bon souvenir nos collaborateurs et partenaires disparus avec un moment de silence dans de nombreux endroits, a-t-il dit. Mais nulle part ailleurs qu'ici à Abuja, le souvenir de ses collègues est plus proche, plus vivant et plus pressant. Nous nous souviendrons toujours d'eux comme ce que réellement l'humanité a de meilleur, a dit le secrétaire général de l'ONU. Monsieur Ban est arrivé dimanche à Abuja et lors de ses entretiens avec le président Muhammadu Buhari et divers autres responsables nigérians, la lutte contre l'insurrection islamiste qui frappe le Nigeria devrait être au centre des discussions, de même que le développement, la démocratie, les droits humains et le changement climatique. Il s'agit de la deuxième visite de Ban Ki-moon au Nigeria depuis sa prise de fonction en 2007.
Camille Gros-Didier, remaniement ministériel au Tchad. Principale nouveauté, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est scindé en deux. Un ministère de l'administration du territoire et un autre de la sécurité publique. Ce dernier portefeuille, très sensible à cause des attaques du groupe islamiste Boko Haram, est confié à un proche du président Idriss Déby, Ahmad Marma Bachir, qui retourne au gouvernement après avoir été conseiller du chef de l'État. La médiation internationale pour la paix dans le nord du Mali a appelé aujourd'hui dans un communiqué les groupes armés qui se sont récemment affrontés dans cette région à revenir à leur position avant ces combats et à libérer leurs prisonniers.
VOA Afrique en direct de Washington.
Les Burundais se sont rendus aux urnes pour élire leur chef collinaire depuis ce matin. Mais ces élections collinaires se font sur fond de violence car samedi soir, un administrateur de la commune Issalé dans Bujumbura rural a été tué avec 3 autres personnes dans un bistrot par des inconnus. VOA Afrique a joint Tassien Sibomana, porte-parole du parti Uprona de l'opposition. Il conteste la légitimité de ce scrutin malgré que les partis politiques ne soient pas autorisé à aligner des candidats selon le code électoral burundais.
Parmi les sévices évoqués par Amnesty International, les coups de barre de fer et les brûlures à l'acide, des pratiques qui, selon l'ONG, visent à extorquer des aveux et à réduire au silence la dissidence. Le rapport d'Amnesty International intitulé « Dites-moi ce que je dois avouer » porte sur les méthodes employées par les forces de police et le service des renseignements burundais depuis avril 2015. Il repose sur des témoignages de victimes et met en évidence une forte hausse du recours à la torture au Burundi suite à la décision controversée du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Les témoignages que nous avons reçus sont aussi terribles qu'inquiétants, car la torture et les autres formes de mauvais traitements sont prohibées par la constitution du Burundi et par les traités régionaux et internationaux auxquels le pays est partie prenante, a déclaré Sarah Jackson, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Est à Amnesty International. Le gouvernement doit mettre fin de toute urgence à ces crimes et sévir contre tous les responsables présumés des sévices, ajoute-t-elle dans un communiqué.
Vous auriez donc entendu qu'il s'agit du rapport de l'Amnesty International qui pointait du doigt des tortures qui sont exercées par les autorités burundaises sur les opposants ou les présumés opposants. Je vous le disais donc que les Burundais se sont rendus aux urnes pour élire leur chef collinaire depuis ce matin. Mais ces élections collinaires se font sur fond de violence car samedi soir, un administrateur de la commune Issalé dans Bujumbura rural a été tué avec trois autres personnes dans un bistrot par des inconnus. VOA Afrique a joint Tassien Sibomana, porte-parole du parti Uprona de l'opposition, y conteste la légitimité de ce scrutin malgré que les partis politiques ne soient pas autorisés à aligner des candidats selon le code électoral burundais.
Ces élections ne sont pas des élections qui intéressent les partis politiques, mais plutôt des personnes qui se font élire au titre d'indépendants, comme je l'ai dit. Mais de toute façon, le processus électoral étant unique, s'il a été déjà faussé dès le départ, tout doit être remis en cause. Donc les revendications de l'opposition restent toujours les mêmes. On cherche à remettre en cause tout le processus de fond en comble et reconvoquer de nouvelles élections et présider et organisée par une CENI réellement indépendante. Bien sûr, quand je parle de CENI, je parle aussi de ses démembrements, à savoir les CEPIS et CECI. Et ce sont les CECI qui organisent justement ces élections collinaires. Et comme vous le savez, ces CECI n'ont pas été composés dans l'esprit d'indépendance que nous avons toujours voulu, que le principe soit celui-là même qui guide la CENI et ses démembrements.
Tassien Sibomana, porte-parole de l'Uprona de l'opposition, joint à Bujumbura. En Égypte, trois policiers ont été tués et au moins 25 autres ont été blessés aujourd'hui par l'explosion d'une bombe. L'attaque a eu lieu près de la ville de Rosette, un petit port méditerranéen à quelques 260 km au nord du Caire.
C'est une réunion qui est très, très importante. Il y aura des délégations des États-Unis et aussi environ 35 pays en Afrique. Le but de cette réunion est de discuter la Goa et particulièrement comment est-ce qu'on peut profiter de la Goa pendant les 10 ans en venant. La Goa, c'est une loi qui donne les préférences aux pays en Afrique pour accéder le marché aux États-Unis. La loi, c'est la première fois en 2000 et maintenant on a renouvelé la loi en 2015 encore pour 10 ans. Et ça donne beaucoup de confiance pour les investisseurs qui veulent investir en Afrique. Parce qu'on sait, le moyen mécanisme pour encourager le développement, pour encourager la croissance, c'est avec commerce. Et c'est très important que l'Afrique maintenant est intégrée dans le monde du commerce.
Voilà l'ambassadrice des États-Unis au Gabon, Cynthia Akwete, qui s'exprimait sur l'ouverture du 14e Forum international de la Goa ce lundi à Libreville au Gabon. Et cette législation américaine renouvelée pour 10 ans en juillet permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter plusieurs milliers de produits aux États-Unis en franchise douanière. C'est ce que donc a expliqué l'ambassadrice américaine au Gabon.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En France, le président François Hollande a décerné la Légion d'honneur ce matin à l'Élysée aux trois jeunes Américains et aux Britanniques qui ont maîtrisé l'homme qui essayait d'ouvrir le feu à bord du Thalys Amsterdam-Paris. Vendredi dernier, le chef de l'État français a déclaré qu'un véritable carnage a été évité grâce à leur intervention. Une enquête est en cours pour déterminer les motivations du tireur. Idrissa Seydoudi.
L'enquête est difficile. Selon une source proche de l'enquête, interrogée par l'AFP, Ayoub El Kazani joue les têtes de mule. Derrière l'image du tireur gringalé semble se dessiner un profil de marginal, petit délinquant à 16 heures, attiré par les sirènes de l'islam radical. Le Marocain a nié tout projet terroriste, expliquant avoir trouvé sa Kalachnikov dans une valise, dans un jardin public près de la gare de Bruxelles, où il dort avec d'autres SDF. Selon lui, il voulait détrousser les passagers du train façon attaque de diligence pour pouvoir se nourrir. Une version qui ne convainc ni les enquêteurs, ni les jeunes Américains qui l'ont maîtrisé dans le train.
Voilà, c'est ici sur ce reportage d'Idriss Seydoudi qui met un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Frédéric Wadrex à la présentation. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.